La Suisse d'aujourd'hui, ses intellectuels, comme on dit, et ses aspirations dans cette période de renouvellement politique, où on est le débat intellectuel en Suisse aujourd'hui. On va en parler ce matin avec notre invité. C'est un écrivain d'origine zurichoise, commentateur régulier de l'actualité politique et également membre du Parti Socialiste. Bonjour Charles Levinsky.
Bonjour.
Merci d'être notre invité jusqu'à 8h en duplex de notre studio de Zurich. Je disais commentateur régulier de l'actualité politique. On en a une belle d'actualité politique. Hier, en fin d'après-midi, c'est l'annonce de la démission de Madame Widmer-Schlumm qui va quitter le Conseil fédéral en fin d'année. La grisonne qui visiblement, même si elle s'en défend, qui visiblement tire les conséquences de l'affaiblissement des partis du centre et du renforcement de la droite et qui va donc partir, voire royale pour l'entrée d'un deuxième membre UDC au Conseil fédéral, après ce qu'on a appelé le Rechtsrutsch, ce glissement à droite du Parlement. Est-ce qu'on va vers un mouvement similaire au Conseil fédéral? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la prochaine législature? On va d'abord parler de ça avec vous avant de parler de la vie intellectuelle en Suisse, si vous êtes d'accord, Charles Levinsky. Peut-être cette nouvelle qu'on a apprise hier, mais au fond on s'y attendait, le départ de Madame Widmer-Schlumpf, quelle a été votre réaction en apprenant cette nouvelle?
Eh bien, c'était une nouvelle, mais ce n'était pas une surprise. C'était logique qu'elle allait partir parce que les votes ne sont plus là.
Les votes ne sont plus là, effectivement. Comment juger son parcours? Comment juger la personne, peut-être, de Madame Widmer-Schlumpf? Aujourd'hui, en lisant les quotidiens, c'est quasiment, à part la Basler Zeitung, que des louanges. C'est un concert de louanges, des réactions très positives. Et vous, qu'en pensez-vous?
Eh bien, elle a certainement fait son travail dans une manière excellente. Ça, c'était pas le problème. Si on discutait seulement la qualité de son travail, elle sera encore conseillère fédérale. C'est une question des partis politiques, pas des qualités des conseillers.
Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'UDC a naturellement, légitimement droit à un deuxième siège au Conseil fédéral le 9 décembre prochain?
Ah oui, pour moi c'est évident, c'est comme ça qu'on a organisé notre gouvernement, alors il n'y a aucune raison de dire « Ah non, on ne vous veut pas seulement parce que la politique de l'UDC ne me plaît pas ».
Et il y a quand même un débat et qui va prendre de plus en plus d'acuité d'ici à début décembre, ce débat sur la capacité de l'UDC de jouer le jeu de la concordance ou de la collégialité au Conseil fédéral. Est-ce que ce n'est pas un débat un peu schizophrénique? Au fond, l'UDC est le premier parti de Suisse et on s'interroge sur sa capacité à être collégial. Est-ce que c'est un débat qu'il faut mener, selon vous?
Ah oui, c'est un débat qu'il faut certainement mener. Vous voyez, l'UDC a déjà annoncé qu'un candidat élu qui n'était pas proposé par le parti ne pouvait plus être membre du parti. Alors ça, c'est contre toutes les traditions d'élection des conseillers fédéraux. C'est souvent dans l'histoire de la Suisse, on a eu un conseiller fédéral élu par les autres partis qui n'était pas proposé.
En l'occurrence, vous parlez évidemment de Madame Widmer-Schlumpf, c'est sûr.
Ah non, je parle plutôt de l'autre côté, là, par exemple, de Otto Stich ou de Willy Richard.
Non, à la base, je parlais de l'élection de Madame Widmer-Schlumpf qui a été rejetée par l'UDC ensuite. C'est ça dont il s'agit.
L'UDC, à ce temps-là, avait deux conseillers fédéraux et ils ont décidé d'en virer une.
Oui. Et c'est ça. Et c'est vrai que pour M. Stich, au début des années 80, ça s'était passé comme ça. Mais au fond, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'UDC est capable de jouer la collégialité au sein du Conseil fédéral? On a l'impression qu'à entendre les discours, et notamment celui de M. Brunner, l'UDC se veut plutôt bonne joueuse, apaisante. En est-elle capable?
Je crois que le mot plus important dans votre question, c'est de le jouer. Je ne suis pas sûr si c'est vraiment sérieux. Les succès de l'UDC des dernières années, c'était toujours parce qu'ils étaient dans le gouvernement et dans l'opposition en même temps. Et c'est une tactique qui a bien marché, mais je ne crois pas que à la longue durée, ça peut fonctionner. On est à l'opposition ou dans le gouvernement.
Oui, et d'ailleurs l'UDC a souvent menacé de quitter clairement le Conseil fédéral si leur vœu n'était pas exaucé, notamment celui d'un deuxième siège.
Ouais. C'est un menace ou un promet.
Mais c'est vrai que l'UDC a toujours eu un pied dedans et un pied dehors, avec deux conseillers fédéraux, UDC pur sang, ou pur jus, si je puis dire. Est-ce que l'attitude du parti va devoir changer? Est-ce que c'est un parti qui va se transformer, plus collégial peut-être, plus moulé dans la politique suisse?
Alors là, je m'y doute, surtout comme maintenant ils ont élu M. Koppel, qui est certainement pas fait pour travailler avec les autres. C'est un homme qui est convaincu d'avoir toujours raison et que tous les autres qui ne sont pas de son avis sont des idiots. Alors là, ce n'est pas une base idéale pour une coopération.
Alors, Roger Koppel, justement, on va le réécouter. L'UDC, Roger Koppel, c'est quand même le conseiller national le mieux élu de toute l'histoire suisse. Hein. C'était donc le 18 octobre dernier. Il s'exprimait, on l'a réentendu le lendemain, c'est-à-dire dans le journal du matin du 19, mais nous avons interviewé Roger Koppel au soir des élections fédérales et de la victoire de son parti. On va le réécouter.
J'ai dit une fois que l'UDC est l'avant-garde intellectuelle de la Suisse parce que l'UDC a vraiment pris les positions les plus intelligentes, je pense, il y a 20 ans. Alors l'UDC n'a pas un déficit intellectuel, un déficit de l'intelligence.
Voilà, alors Roger Koppel, qui est rédacteur en chef de La Vélvorée, qui est véritablement un intellectuel de droite, il dit, et j'aimerais bien entendre votre réaction, Charles Levinsky, il dit que l'UDC est maintenant à l'avant-garde intellectuelle de la Suisse. Qu'est-ce que vous répondez? Ouais.
C'est vraiment une bonne blague, ouais.
Pourquoi?
C'est amusant, parce que c'est ce qui est dangereux avec des gens comme M. Koppel, c'est lui, il est certainement un intellectuel. Il peut penser logiquement, mais les idées de base, tant il commence avec sa logique, sont des idées tout à fait fausses. Alors là, ça me semble beaucoup plus dangereux que la simplicité d'argument, disons, par exemple, de Donny Brunner.
Mais alors, allons dans le détail. Quelles sont ces idées? Pourquoi seraient-elles fausses? Est-ce qu'il n'y a pas, en filigrane, ce que vous dites, l'idée qu'on ne pourrait pas être un intellectuel UDC, peut-être même pas un intellectuel de droite? C'est ça que vous voulez dire?
Ah non. On peut l'être, mais je crois que dire que l'UDC était toujours à l'avant-garde des arguments intellectuels, ça, c'est plutôt drôle.
Mais sur l'Europe, par exemple, force est de constater, certains ne seront pas d'accord, évidemment, mais que l'UDC a relativement vu ce qui allait se passer il y a 20 ans ou 25 ans. Elle a eu raison, en partie, sur l'Europe, l'UDC, non?
Ah, je ne crois pas qu'elle a eu raison du tout, non. Je crois que le fameux vote contre l'Europe qu'on a eu avec, 50, quelque chose pour cent, je crois que l'effet à longue durée sur la Suisse n'était pas du tout positif. Mais je crois en même temps que la Suisse doit certainement ne pas joindre la communauté européenne.
Ah, donc on dit à peu près la même chose au fond, mais ça c'est aussi dû à l'UDC. Donc sur ce coup-là, elle a senti les choses, le mouvement de l'histoire.
Ah non, il y a une grande différence. On peut dire, que me semble logique, que la Suisse au moment ne peut pas joindre l'Union européenne parce que l'Union européenne n'est pas organisée dans une manière démocrate. Là, on a, dans notre pays, on a tellement l'habitude et la tradition de la démocratie, ça ne va pas fonctionner. Mais ça, ce n'est pas la même chose que les arguments de l'UDC qui veut dire « Ah, nous, en Suisse, nous sommes mieux que tous les autres. Il ne faut rien accepter, il ne faut pas avoir de coopération du tout. On est les meilleurs, on est le comble de l'évolution parce que ça fonctionne peut-être après Tibière le soir, mais...
Tibière le soir, ah oui. Ouais. Vous pensez que c'est un parti qui puise ses idées dans un certain éthylisme? Vous allez jusque-là, Charles Levinsky?
Quoi? Pardon, je n'ai pas compris votre question.
Vous dites après Tibière le soir, mais c'est au fond, c'est une accusation, non?
Oui, c'est...
Même si c'est sous le couvert de l'humour.
Alors, il faut l'expliquer un peu plus... Donnez-moi un peu plus de temps.
Allez-y.
il y a toujours les arguments raisonnés et les arguments simples. Il est toujours plus facile de proposer des arguments simples, même si c'est faux, que de proposer des arguments raisonnés. Les arguments simples disent toujours « c'est comme ça, fini ». C'est l'argumentation de Roger Koppel. Je viens de lire un article qu'il a publié aujourd'hui dans sa Weltwoche. C'est encore ça. Alors là, les intelligents sont de mon opinion, tous les autres sont des idiots. Et il y a les arguments raisonnés. On dit pas l'Europe, c'est horrible. On dit oui, il y a des problèmes là parce qu'à cause de ça, mais ils font penser à ça, ils font penser à ça aussi. Et c'est beaucoup plus difficile de convaincre des gens des argumentations raisonnées que des argumentations tout simples.
L'UDC, qui a souvent été considéré comme un parti éloigné de l'intelligentsia, sans élite intellectuelle, est-ce que justement, avec Roger Koppel et avec d'autres, c'est en train de changer? Est-ce que l'UDC pourra aussi être à l'avenir considéré comme un parti avec un fondement intellectuel?
Ah, c'est difficile à dire, je le crois pas vraiment, parce que Koppel, c'est un personnage exceptionnel. Il est pas typique pour son parti, mais il y a certainement un certain changement. Est-ce qu'on peut dire comme ça, les vieux combattants de l'UDC sont en train de quitter leur vie active politique, et je dirais que lui, il est le nouveau prophète de l'UDC, et j'utilise le mot prophète parce que je pense, lui, c'est pas tellement, comme je le connais, comme je lis ses articles, c'est pas tellement un homme des arguments, c'est plutôt un homme de croyance, là. Il croit presque dans une manière religieuse dans ses théories.
Alors, il y a un autre intellectuel alémanique, écrivain comme vous, que vous connaissez évidemment, Charles Lewinsky, c'est Luca Berfus, qui a créé un gros débat. C'était juste avant les élections fédérales. Dans une tribune publiée dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il dressait un portrait très féroce des Suisses. Il les appelle les nains catatoniques, qui sont en extase devant l'image idéalisée de la Suisse, incapables d'affronter les défis de l'avenir. Bon, alors là, on change de registre, c'est plus Roger Koppel, mais c'est Luca Berfus. Vous engagez le débat avec lui, vous lui répondez quoi?
Premièrement, je lui réponds qu'il y a... S'il y a un argument comme ça à faire, on le fait en Suisse.
Et pas dans un journal allemand?
On va pas chez les voisins pour dire « ma famille est idiote ».
Oui, mais sur le fond, est-ce qu'il a raison?
Non, il n'a pas raison du tout. Il est très facile, comme il est très facile de dire « tout dans la Suisse est idéal et parfait », comme dit l'UDC, il est aussi facile de dire que tout en Suisse est horrible, que ce sont tous des nains, que des idiots, que c'est la catastrophe et que Lucas Perfus est le seul à comprendre les problèmes. C'est aussi faux de la gauche que de la droite.
Justement, cette Suisse que nous propose l'UDC depuis 20 ou 30 ans maintenant, la Suisse de Christophe Blocher, est-ce qu'elle existe vraiment?
Je crois qu'elle existe plutôt dans les têtes des gens que dans la réalité. L'UDC se propose comme la partie des gens normaux, mais en même temps, c'est la partie des milliardaires. Alors, ça, pour moi, ça ne va pas ensemble.
J'ai envie de vous poser la question comme ça, Charles Lewinsky. Qui sont les intellectuels en Suisse maintenant? Bon, c'est vrai qu'on a souvent des Français sur notre antenne, des Suisses aussi, mais c'est plus rare. Et Onfray, Finkielkraut, etc. Qui sont les intellectuels en Suisse aujourd'hui, selon vous? Ceux qui entretiennent ce débat, non pas à coup d'idées chocs et simplistes, mais qui entretiennent la nuance, qui permettent d'aller plus loin, c'est qui?
Si vous lisez par exemple un article très raisonné de, disons, Peter von Matt, c'est ce style des gens-là qui regardent les arguments des deux côtés, qui ne sont pas convaincus d'avoir toujours raison, qui se posent des questions et essayent à trouver des réponses, et sans ça, les vrais intellectuels.
Mais vous citez Peter von Matt, quasiment inconnu de ce côté-ci de la Sarine, en Suisse romande.
Dommage.
C'est dommage, mais absolument. La tradition française valorise beaucoup, je le disais, les intellectuels, peut-être même un peu qu'on les voit trop, ma foi, sur des plateaux de TV où ils ne devraient pas forcément être. Quoique, c'est un autre débat. Est-ce qu'en Suisse, alors, à contrario, les intellectuels devraient davantage se faire entendre? Pourquoi ne sont-ils pas plus entendus?
Alors, je vais vous raconter une histoire. Quelquefois, j'écris des articles politiques, puis je reçois beaucoup d'emails. Et il y a les emails critiques, typiquement, me disent « Ah, vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous êtes un intellectuel. »
Ah.
Alors le mot intellectuel en Suisse alémanique est souvent utilisé dans une manière péjorative.
C'est presque une insulte.
C'est presque une insulte, et ce qui est drôle en même temps, c'est normalement quand les gens, mais c'est vrai, hein, c'est pas une blague, quand les gens m'envoient des emails comme ça, le mot intellectuel a souvent défaut d'orthographe.
Mais pourquoi ce sens aussi péjoratif? Comment vous le comprenez?
Parce que c'est aussi un peu seulement la faute de politiciens qui disent « Ah, nous sommes la partie des gens simples, la partie des paysans ». Et je ne crois pas du tout personnellement que les paysans ne sont pas des gens intellectuels. Mais on admire les gens qui ne sont pas intellectuel, Alain Finkielkraut en Suisse alémanique, on n'aurait pas grand chance.
Oui, effectivement. Justement, sur Finkielkraut, sur Onfray, ce sont des gens que vous lisez, j'imagine, vous qui habitez la moitié du temps en Franche-Comté. On dit maintenant qu'ils sont, pour Onfray en tout cas, quasiment devenus des hommes de droite, ou en tout cas qu'ils font le lit d'une certaine pensée de droite. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, j'ai aussi quelquefois l'impression que ils ont toujours eu l'habitude de tout critiquer, de voir les choses négatives. Et alors, on se rencontre avec la politique des droits qui fait la même chose.
Et on recevait hier matin sur cette antenne l'ancien président du Conseil italien et pro-européen convaincu Enrico Letta. Il émettait le souhait qu'un jour la Suisse, et on y revient, rejoigne l'Union européenne. Il disait que c'était un rêve. Est-ce que ce rêve-là, vous l'avez toujours, Charles Levinsky?
Ah oui, j'ai toujours... Moi, je rêve d'une Europe qui devient tellement démocratique que la Suisse peut permettre à l'Europe de nous joindre.
Oui, mais c'est aussi ce que dit l'UDC, l'Europe n'est pas démocratique. C'est aussi un discours qu'on entend, et dans la bouche d'un Michel Onfray aussi, l'Europe, les institutions européennes, n'est pas assez démocratique. Vous ne dites pas autre chose, au fond.
Ah non, mais c'est évident, la manière comment l'Europe est organisée, et c'est une Europe des gouvernements, c'est pas, ou pas encore, disons, une Europe des peuples. Je crois que ça peut se développer, mais au moment, la manière comment ça fonctionne, si vous voyez seulement comment ils essayent de résoudre les problèmes des réfugiés, c'est les chefs de gouvernement qui discutent. Quand on a voulu faire une constitution européenne, il y a eu des pays qui ont voté non. Alors on n'a pas dit, eh ben, le peuple a décidé que c'est non. On a changé le nom et c'était plus une constitution, c'était autre chose. Ou l'Irlande, on a demandé, ah, vous avez voté non, alors votez encore jusqu'à... Vous avez la réponse que votre gouvernement veut avoir, et ça, c'est certainement ne pas démocratique.
Le déficit démocratique de l'Europe. On va passer aux commentaires de quelques articles de presse issus de la presse à la fois romande et alémanique. Si vous êtes d'accord, Charles Levinsky, d'abord l'Hebdo, qui sort aujourd'hui et qui revient sur les élections fédérales, et qui évoque les nouveaux élus alémaniques. Et on va retrouver un nom connu qui pourrait bien émerger et qui pourrait bien compter sous la coupole.
Oui, alors on connaît déjà au moins deux élus zurichois. Vous avez beaucoup parlé de Roger Köppel jusqu'à maintenant. Il y a aussi l'ex-ambassadeur Tim Guldimann. Mais il va falloir retenir d'autres noms d'élus alémaniques, des élus susceptibles de rayonner bien au-delà de leur région. Prenons par exemple Régine Sauter. Elle est elle aussi zurichoise, PLR. Elle dirige la Chambre de commerce zurichoise et elle défend les accords bilatéraux avec vivacité. Évoquons aussi Christoph Hemann du parti LDP à Bâle, un libéral qui prône l'écologie et la responsabilité sociale. C'est lui qui a succédé à Isabelle Chasseau à la présidence de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Alors on peut faire un constat, parmi ces nouveaux élus, beaucoup de Zurichois sortent du chapeau de l'hebdo ce matin, avec notamment la socialiste Minli Marti ou encore l'UDC Hans Uli Vogt.
Il y a ce qu'on appelle des Quereinsteiger, Tim Guldimann, Roger Köppel, qui ne sont pas issus du sérail politique. C'est une bonne chose pour la démocratie, ces Quereinsteiger, Charles Levinsky?
Ça doit se décider personne par personne. On ne peut pas faire une règle. Ça peut être bon ou ça peut être horrible. Ce qui me semble être le problème, c'est on parle toujours des conseillers de Zurich, de Bâle, de Genève, mais en effet, on devrait changer l'appellation et dire, alors voilà, c'est le conseiller des assurances, c'est le conseiller des unions, c'est le conseiller de ces groupes d'intérêt, parce que j'ai l'impression qu'au moment où on est élu, dans cette fonction-là, et pas tellement pour faire la meilleure chose pour son canton.
Bon, ça c'est le système de milice, on est souvent le représentant de certains intérêts. Hein. Vous voulez changer le système?
Je ne crois pas qu'on pourrait le changer, mais je suis sûr que même un système qui marche bien, comme le système suisse, doit toujours être comme une machine. Il faut toujours corriger un peu pour être sûr que ça marche encore.
Le quotidien Le Temps analyse les différentes démarches mises en œuvre par l'école pour faire aimer l'allemand aux élèves.
Il faut bien l'admettre, la langue nationale pourtant majoritaire dans notre pays, eh bien elle reste mal maîtrisée, surtout mal aimée par les jeunes romands. Du coup, les profs se plient en quatre, en particulier à Genève, où ils multiplient les échanges. Certains proposent de partir à Gstaad en classe de neige bilingue. D'autres invitent des Zurichois pour une course d'école culturelle à Genève. Le défi, c'est évidemment de redonner du sens à cette langue. Et pourtant, le constat est cinglant. Ce système des échanges est largement sous-exploité. Imaginez, seul 1% des élèves en profitent. Il y a donc encore un grand chemin à parcourir.
On devrait tous s'échanger. Deux mois en Suisse allemande, deux mois en Suisse romande, on échange les familles. Charles Levinsky, c'est ça qu'il faut faire? Et en Suisse italienne, bien sûr, aussi.
Je comprends bien que les Suisses francophones ont le problème avec l'allemand, parce qu'après tout, le français, c'est une langue tellement plus belle que l'allemand.
Ah ça, j'en sais rien, c'est vous qui le dites.
Hein. Ah oui, c'est... Ce que je comprends pas, qui me fait des soucis, c'est pas tellement que les francophones n'apprennent pas assez l'allemand. Là, je vois pas grand danger. Je vois le grand danger dans l'autre direction. Pour moi, c'est absolument nécessaire que chacun dans un pays comme la Suisse parle au moins deux langues nationales.
Dans la presse alémanique, le musée d'art de Berne et le centre Paul Klee auront sans doute bientôt une direction commune, Sandra Zimmerli.
La direction artistique, en tout cas, selon la Berner Zeitung, qui croit savoir que la fondation mère des deux institutions annoncera la nouvelle aujourd'hui, une fusion artistique encore impensable il y a peu, et qui permettra de nombreux échanges, synergies. Le fait que le directeur du centre Paul Klee ait donné sa démission pour fin février n'y est certainement pas pour rien. Il n'était pas sur la même longueur d'onde que le nouveau président de la fondation. Il faudra donc un nouvel homme fort pour diriger cette super direction, puisque Klee n'a plus de directeur et que celui du Kunstmuseum n'a pas le profil idéal, selon le quotidien, qui le voit plutôt gérer la collection Gurlitt, si le tribunal de Munich l'attribue bien sûr au musée bernois.
Juste une réaction brève en 15 secondes ou 20 sur cette direction commune, Kunstmuseum et Centre Paul Klee, c'est une bonne chose pour vous?
Ne me demandez pas, parce que les arts visuels, c'est pas du tout ça dont je me connais.
Ah bon, mais alors sur l'idée de fusion ou disons de mise en commun de la direction pour des institutions artistiques, ça, non?
J'en sais pas assez.
Vous en savez pas assez.
Vraiment avoir une opinion, chez moi, tous les arts visuels, c'est le département de ma femme.
Très bien, on lui posera la question à l'occasion. Merci Charles Levinsky d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous.